A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Parce qu'il est assis là dans le fauteuil d'en sol majeur, c'est à la fois Noël et un vrai festival. L'apparition de Mahamat Saleh Haroun est toujours un événement, que ce soit dans le cinéma ou désormais en politique. Présenté comme le premier réalisateur tchadien de l'histoire, régulièrement invité sur la croisette, prix du jury au Festival de Cannes 2010 et prix Robert Bresson à la Mostra de Venise pour Un homme qui crie, sa caméra filme les souffrances de la société tchadienne marquée au fer rouge par la guerre civile des années 80. Et je remarque, dans cette rediffusion, que notre invité a plus d'un tour dans son sac d'artiste et d'homme libre. Après avoir signé Hissène Habré, une tragédie tchadienne, après avoir dit oui à Idriss Déby pour servir le pays en tant que ministre de la Culture, le voilà qui pose au pied du sapin un premier roman. Bonjour Mahamat Saleh Haroun.
Bonjour.
Alors vous êtes évidemment unique à bien des égards, mais cette manière qu'on a toujours de vous présenter comme le premier réalisateur tchadien de l'histoire, est-ce que c'est pas un trophée un peu lourd, un peu tragique aussi à porter ?
Oui, un peu lourd, mais je suis l'aîné d'une famille et j'ai appris très tôt en fait à m'occuper de ceux qui viennent après moi. Vous avez sans doute dû voir dans les clichés des rues africaines des petites filles ou des petits garçons portant dans le dos des bébés, ce sont généralement leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et l'aîné doit s'occuper de ceux qui viennent après lui. Donc à un moment donné, c'est un devoir. C'est un devoir qu'on a à porter les autres, à être devant. Même si j'ajoute que je ne suis pas le premier réalisateur de l'histoire, il y a eu Édouard Saï qui était un caméraman qui faisait les actualités, comme on les appelait à l'époque, et qui a fait un film, je crois, qui s'appelle Le Septième Jour, un documentaire qui était à la Mostra de Venise. Mais je suis le premier cinéaste tchadien peut-être reconnu comme ça sur le plan international. Voilà.
En même temps, il n'y a pas que le Tchad au pays de Mahamat Saleh Haroun. Allons voir ça.
You've never seen an aquarium. Would you show me about?
I couldn't think where else we could meet. Only tourists come here and school children.
And lovers?
Oh, Michael.
Fair Rosalie.
You love me very much.
I do.
Do you still want to take me away with you?
Why do you ask me that?
Tell me where we'll go, Michael. Will you carry me off with you into the sunrise?
Stop tormenting me. I'll take proper care of you. You won't starve.
I don't care where it is, Michael. Just take me there. Take me quick. Take me.
C'est comme cabinet de curiosité.
Hai November aur December ka tu pooch na haal. Hai November aur December ka tu pooch na haal.
Un cabinet de curiosité qui remplit vos yeux d'étoiles, on dirait, Mahamat Saleh Haroun.
Oui, absolument, oui. Ce chant typique des films de Bollywood, les films de mon enfance.
Il s'agit de Amitabh Bachchan,
qui est le héros de mon enfance et qui était une sorte de Robin des Bois, brun, ténébreux, grand, fort forcément parce que c'est un héros. Et dès qu'il apparaissait en fait à l'écran quand on était petit, on applaudissait et généralement il gagnait, il les tabassait tous. Et il était pauvre et il arrivait en fait à vaincre les plus riches et les plus forts et il emportait la plus belle femme. C'est toujours un être exceptionnel. Je crois qu'en Inde les gens se prosternent devant lui. C'est un dieu vivant.
Alors il y a le cinéma à Bollywood, mais il y a aussi le cinéma américain avec la figure juste avant de Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai.
Absolument. Rita Hayworth, quand dans La Dame de Shanghai, enlève ses gants à un moment donné, mais c'est d'un érotisme, enfin c'est une espèce d'initiation à la sensualité et qui vous nourrit à tel point que vous sortez de là, vous avez l'impression d'avoir déjà touché un homme, enfin une femme, alors que ça n'a jamais été le cas. Quoi. Donc,
une rousse pimentée qui incarnait la pin-up pour les GI, très très loin des femmes d'Abéché où vous avez grandi.
Oui, sans doute parce qu'elle était exotique. Les femmes d'Abéché étaient trop proches de moi. Je rêvais d'ailleurs d'autres horizons, donc voilà.
Coïncidence, pour revenir à cette figure de Bollywood qui vous a tellement fait rêver quand vous étiez enfant, Mohamed Saleh Haroun, le petit héros de votre premier roman, Djibril ou les ombres portées, est un enfant des rues tchadiennes. On va raconter son histoire et lui aussi découvre à Abéché le cinéma à ciel ouvert, et son tout premier film est un film indien. Ce soir-là, dit-il, j'ai décidé de devenir cinéaste. Je rêvais de capter la beauté des miens et du monde qui m'entoure. Et il y a là apparemment une complicité évidente entre vous et ce héros.
Absolument, oui. Oui, le cinéma, c'est ça en fait. C'est apprendre soudain à se dire que filmer les autres, c'est tout simplement les aimer. Donc, c'est une manière de caresser, de donner de l'amour. On peut aller même plus loin, de faire l'amour à la personne qu'on aime. Et c'est un acte en soi très noble que de filmer. Et on ne peut pas filmer avec la haine au cœur, en fait. S'il décide de devenir cinéaste, c'est parce que, en l'espace de quelques secondes, il découvre ce visage, ses yeux, ce sourire, et il fait abstraction de centaines de personnes assises à côté de lui, et il croit que ce sourire-là lui est adressé. C'est un peu comme la Joconde. Elle fixe la caméra, et ses yeux et vous fixe individuellement chacun. Et c'est un rapport direct.
C'est un appel.
C'est un appel, voilà.
Et comme... étrange étranger...
Quoi reconnaît-on un enfant de la rue ? À ses haillons, à sa crasse, à la colle qu'il sniffe à longueur de journée. Des clichés, oui. Moi, je ne suis pas comme ça. Je porte propre sur moi. Je ne me drogue pas. Je ne sniffe pas. Je fume seulement de la marijuana. J'en abuse même. Mais c'est sans gravité. Tout le monde sait que la marijuana, ce n'est pas de la drogue. Dans ma vie de vagabond, deux choses ne me quittent jamais. Mon cahier d'écolier sur lequel je consigne tout ce que je vois et mon petit transistor qui me relie au reste du monde. Africa numéro 1, RFI, la voix de l'Amérique. Grandir dans la rue, c'est comme sauter plusieurs classes d'un seul coup. On se retrouve projeté dans un autre monde, celui des adultes. Un monde fait de compromis, de paroles non tenues, d'hypocrisie, de mensonges. Les adultes aiment parler, du blabla jusqu'à la nausée. Pourtant, un dicton bien de chez nous dit ceci: quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Je suis tombé très tôt dans ce monde d'adultes, je n'ai pas vu passer mon enfance. J'ai lu quelque part que la patrie c'est l'enfance. Comme je n'en ai pas eu, je peux dire que je suis sans patrie.
Extrait en sol majeur de Djibril ou les ombres portées, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Alors comment votre Djibril, Mohamed Saleh Haroun, est-il devenu un enfant des rues ?
La particularité de ce garçon, ou son originalité, c'est qu'il ne sait pas comment il a atterri là. Il ne se souvient pas de son passé. D'ailleurs, c'est ce qui le pousse à consigner tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il se retrouve sans passé, et il ne veut pas que les autres deviennent comme lui. Et je trouve que c'est un acte d'engagement extraordinaire, et que pour moi, la création, c'est ça. C'est comment fabriquer, en fait, refuser que ceux qui nous suivent retombent s'il y a des pièges, qu'ils tombent dans les mêmes pièges que nous.
Alors, Djibril ne se souvient pas de son passé. Et son récit est ponctué par les années 80, les années de la terreur, et du CDS, le Centre de Documentation et de Sécurité, la police politique, donc instaurée par le parti unique d'Hissène-Habré. Est-ce que la terreur et l'amnésie, ça marche ensemble dans le cas de Djibril ?
Oui, je pense que l'amnésie permet peut-être d'oublier les horreurs, d'oublier l'indicible. Et j'ai vu, moi, quand j'ai fait le documentaire sur les victimes de Hissène Habré, des gens qui ont perdu complètement la tête. Il y a un psychiatre, je le rappelle souvent, pour 12 millions d'habitants. Et j'ai vu, en effet, des gens qui ont même refusé de répondre aux questions. Ils donnaient rendez-vous, mais ils s'enfuyaient. Ils ne voulaient absolument pas être replongés dans ce passé-là, comme s'il n'avait jamais existé. C'est une façon de survivre à l'horreur. C'est une manière d'avancer. Mais à quel prix ?
Alors, vous faites un portrait terrible de la société tchadienne à travers ce môme qui a quelque chose de hors norme, ce Djibril. Hein. Il préfère apprendre le Candide de Voltaire par cœur plutôt que le Coran. Il cherche l'amour et non pas l'avoir. Il est loyal par rapport à la parole donnée à un journaliste détenu qui est en train de croupir dans les geôles. Il n'est pas superstitieux, comme tous les autres habitants qui, après chaque épidémie, se lancent dans des prières des nuits entières. Bref, c'est la figure de l'étranger idéal aux yeux de la société tchadienne.
Absolument, oui. La figure de l'étranger pour la simple raison qu'il est à la périphérie, à la marge. Et moi, j'aime bien les marginaux parce qu'à un moment donné, dans cette marge-là, il y a des gens qui prennent conscience de l'injustice qui leur est faite. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent observateurs et le devoir qu'ils se font, c'est de rendre compte de ce qu'ils voient. Donc par moment, on n'est pas artiste tout simplement parce qu'on a écouté de la musique classique et baigné dans des livres. C'est comment, à un moment, l'acte de créer est un acte profondément d'engagement. On se dit, de là où je suis, de cette exclusion, il naît un besoin, un désir de dire ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'il fait. Et
Pourquoi vous avez choisi de raconter la société tchadienne à travers un regard de gamin? Il a quand même, on va dire, 14 ans.
Oui, ça me paraît, il y a de la naïveté. Et je me disais que cette naïveté, cette belle naïveté, moi je voulais la voir, quoi, le regard frais d'un enfant.
Voilà. Mais c'est aussi à travers ce regard d'enfant qui est quand même assez lucide, hein, assez adulte, peut-être plus adulte que les adultes eux-mêmes. C'est le procès du monde des adultes.
Absolument, oui. Le procès du monde des adultes, parce que il se souvient qu'on lui a beaucoup menti et il raconte ce mensonge de son père qui lui avait promis quelque chose et qui ne l'a pas réalisé. Et moi, je me dis qu'on fabrique aussi des beaux parleurs, quoi. Et je me dis qu'on a le devoir peut-être de considérer les enfants non pas comme des adultes, mais juste comme des intelligences en herbe et qu'ils peuvent comprendre certaines choses.
Ouais. Alors ce Djibril est effectivement un étranger aux yeux de la société tchadienne. D'ailleurs cet étranger a les yeux bleus.
Comme moi.
Il a vraiment les yeux bleus dans votre roman.
Oui, il a vraiment les yeux bleus, mais moi je les ai un tout petit peu, mais il a vraiment les yeux
Faites
bleus.
Faites voir.
Et c'est la fabrique de la figure de l'étranger, en fait. Et pour fabriquer la figure de l'étranger, il faut charger la barque, il faut inventer, non seulement voir comment il est, mais le renvoyer à une forme d'animalité, à une différence essentielle. Et Djibril joue un peu cela parce qu'il n'est pas dans ses croyances, parce qu'il a l'impression tout simplement qu'il y a beaucoup de gesticulations et que en vivant dans la rue, je crois qu'il perçoit et il voit les mensonges. Et comme il parle du mensonge, il se rend compte pour moi à l'évidence de la négociation permanente avec le réel des adultes, c'est-à-dire entre ceux qui se cachent pour aller boire et qui font les marabouts le matin. Enfin, je crois qu'il est désabusé parce qu'il les voit. Souvenez-vous des 400 coups quand Truffaut, Antoine Doinel voit sa maman dans la rue avec son amant, elle l'embrasse et tout. C'est la fin de quelque chose, de tout un monde. Et je crois que Djibril assiste à la chute d'un monde, à ses parents qui ont disparu, à ce monde qui est en train de se détruire par une espèce de terreur mise en place par un système politique.
Oui, oui, là c'est un portrait absolument impitoyable de ce Tchad des années 80. À travers, on peut donner un exemple, cette scène d'hôpital à Béché,
oui,
où des malades viennent s'échouer, il n'y a pas d'autre terme, avec des diarrhées hémorragiques. Ils attendent l'improbable docteur Noki, qui ne viendra absolument jamais. Et ils doivent faire sans les infirmières, qui menacent de faire grève, car elles ne sont pas payées depuis des mois. Et la crise se trouve réglée manu militari par le maire d'Abéché qui donne l'ordre d'évacuer les malades hors de la ville. Pour en faire quoi ?
Mais pour les cramer, tout simplement, pour les brûler, parce qu'ils sont censés avoir une maladie contagieuse. D'ailleurs, à un moment, le maire veut serrer la main à un des malades et puis un de ses gardes du corps lui dit « Non, non, surtout pas, faut pas les toucher. » Et donc, il n'y a pas, c'est une élimination physique. Ça rappelle un peu des périodes peu glorieuses de l'humanité. Et il me semble qu'il y a eu quelque chose de très proche de l'idéologie nazie dans les années 80 au Tchad. Et je voulais en rendre compte parce que après avoir fait ce documentaire sur les victimes de Habré, je me suis rendu compte en fait de cette horreur qui était pour moi impensable, mais au sens philosophique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la penser. Et pendant le tournage, pendant les trois premiers jours, on n'arrivait pas à dormir, toute l'équipe, parce qu'on avait ces témoignages et on ne savait pas quoi en faire. Et je me suis rendu compte que la littérature tchadienne n'a pas vraiment pris en charge cette période-là, on n'en parle pas. Et moi, je me suis dit qu'il était de mon devoir, pour avoir approché ses victimes, de rendre compte, un peu comme Djibril veut le faire à travers son journal, de rendre compte de cette souffrance en me souvenant de ce vers de Blaise Cendrars, « Seigneur, ayez Dieu des peuples en souffrance ».
Mmh. Avec également des scènes de Djibril qui se retrouve en prison, à cohabiter avec des cadavres, et une scène inouïe que j'imagine d'ailleurs dans un film, peut-être signé Mahamat Saleh Haroun. Dans un sursaut de vie, Djibril, 14 ans, se met à bander parce qu'il est en train de penser à l'amour de sa vie, une somptueuse Hiloua. Et je repense à cette scène de masturbation dans cette prison. Est-ce qu'elle a été difficile mais nécessaire à écrire, cette scène-là ?
Oui, non, elle n'a pas été difficile à écrire. Elle est arrivée vraiment comme une espèce de dans une espèce de fluidité totale dans le récit. C'est le personnage qui m'a amené vers cette scène-là. Il bande pour dire que merde en fait à ce monde. Il se masturbe, enfin il est dans la transgression totale et c'est tout ce qui lui reste, moi, en réalité. Un peu comme s'il était enchaîné de partout et la seule chose qui lui reste c'est son corps et c'est cette identité, donc qui est le sexe, hein, qui fait son identité, parce que parmi les victimes de la DDS là, du régime de Hissène Habré, il y en a pas mal qui ont perdu en fait leur virilité, qui sont devenus impuissants. Donc c'est cette atteinte à sa propre identité, en l'occurrence sexuelle, à son âge, c'est ça, hein, il s'identifie encore à cela. Et non, je me suis vraiment laissé guider juste tranquillement. Je suis maintenant étonné de relire la scène parce que
c'est pas sur la base d'un témoignage, par
exemple.
Non,
pas du tout. Non, c'est pas sur la base d'un témoignage. Non, pas du tout.
Bon, on ne dira pas si Djibril sort vainqueur ou vivant de ce roman, il faut le lire, mais c'est un roman qui vous permet aussi d'écrire des scènes d'amour entre Hiloua et Djibril qui s'aiment sur du Fela Kuti.
Fela chante et tu as envie de sauter, rire et danser. Hiloua tend les bras vers toi, t'appelle, viens à moi mon chéri, tu te lèves, t'approches d'elle. Tu te mets à genoux dans l'eau, comme en état de prière devant ce corps qui s'offre à toi. Tes mains se posent sur les hanches, tu pars à la conquête de sa toison. Tes doigts parcourent le pénil recouvert d'une broussaille de poils drus. Tu penses à ce médiocre film pornographique que tu as vu avec double tête dans un vidéoclub. Et tu te dis que tu devrais boire à la fontaine de ce sexe. Mais tu ne fais rien de tout ça. La peur, mon frère. Tu as les mains moites. Quelque chose comme un nœud dans ton ventre.
Fela, Water No Get Enemy, c'est page 128 du premier roman du réalisateur Mahamat Saleh Haroun, Djibril ou les ombres portées. Un point sur le monde et on s'occupe de la bobine du Tchad dans 3 minutes.
Yo, I do love this. Yes.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Vous étiez là en première partie, vous avez découvert, comme moi, que Mahamat Saleh Haroun ne fait pas que des films. Le grand écran se souvient entre autres d'Un homme qui crie, de Gris-Gris, d'Issenabré, une tragédie tchadienne. Mais désormais, les salons littéraires vont devoir compter avec Djibril ou Les ombres portées, son premier roman. Le Tchad, surnommé le cœur mort de l'Afrique à cause de son enclavement au centre du continent, est une obsession harounienne. Une obsession qui fait de cet homme de culture qui vit toujours un peu à Paris, je crois, un homme politique qui aujourd'hui fait partie du gouvernement tchadien. Alors avant la politique, la musique. La musique de Oasis Diop, compositeur sénégalais, que vous avez sollicité au moins pour deux de vos films, Darat et Gris-Gris, et que vous avez programmé en sol majeur avec Samba le berger. Pourquoi ce titre ?
J'aime bien Oasis, c'est un ami, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui est en permanente recherche, comme ça. Il vient d'ailleurs de composer la musique de mon prochain film, Une saison en France. Et Samba le berger, c'est ce personnage sans frontières, comme ça, qui voyage au gré du vent et puis au gré de l'herbe grasse pour les animaux, et qui arrive à Paris, et ça parle donc de réfugiés, de migrants, enfin, et je trouve que...
De façon très ironique, hein.
Absolument, oui, tout à fait. C'est ça que j'aime bien, c'est cette façon ironique de raconter tout ça, quoi, j'aime bien.
Samba, samba, samba en France. Samba, le berger, samba, le berger. Samba, samba en France. Samba, samba en France. Il fait le ménage. Il fait le ménage. Il travaille le dimanche sans faire de grimaces.
Tirailleurs
sénégalais.
Tirailleurs
sénégalais.
Sur les
Champs-Élysées.
Sur les
Champs-Élysées.
Au nom
de la liberté.
Au nom
de la liberté.
De
l'égalité.
De la
fraternité.
Samba
aime la télé.
Samba
aime la télé.
Samba
assis à côté.
Samba
assis à côté.
Soudain
le Ténéré.
Soudain
dans le Ténéré,
des motos
et des voitures
sont en train
de s'amuser.
Samba
ne comprend pas.
Samba
ne comprend pas.
Lui qui
n'a pas de voiture.
Lui qui
n'a pas de voiture.
Qu'on lui
demande son permis.
Qu'on lui
demande son permis.
Et que
dans le Ténéré,
la vitesse
est autorisée.
Il
manifesta.
Il
manifesta.
Pour la
liberté.
Pour la
liberté.
Pour
les sans-papiers.
Pour
les sans-papiers.
Pour
ceux qui vont à pied
jusqu'à
l'Élysée. Samba.
Samba.
Ouh. Samba, samba.
Samba. Samba.
Ouh. Samba.
Samba.
Ouh. Samba, samba.
Samba. Samba. Samba
n'aime pas les chartes.
Samba
n'aime pas les chartes.
C'est pas
pour faire le fier.
C'est pas
pour faire le fier.
Samba
n'aime pas les chartes.
Samba
n'aime pas les chartes.
C'est pas
pour faire le fier.
C'est pas
pour
Samba
faire
n'aime
le
pas les chartes.
Samba
c'est pas pour faire le fier.
Mahamat Saleh Haroun, vous êtes né en 61 à Abéché. Est-ce que ce sont là éventuellement vos premières images sonores dans ce Tchad des années 60 ?
Oui, absolument. C'est quand les femmes pilent les céréales, mil, maïs, riz, inoubliable. Et ces coups de pilon, c'est quand les femmes sont à plusieurs. Elles pilent chacune à son tour et c'est une sorte de musique comme ça. Et parfois, elles s'amusent à lâcher le pilon en l'air. Elles applaudissent une ou deux fois avant de le saisir. Enfin, c'est ce boulot qui est assez épuisant. Parce que maintenant, j'ai toutes mes tantes qui sont broyées, qui ne peuvent pas marcher, qui...
Broyées qui ont les travaux des...
Voilà, par les travaux, on se rend compte que pour avoir porté pendant des années des enfants dans le dos, pour avoir porté 20 kilos sur la tête et tout ça, ben les os ne tiennent plus. maintenant, elles arrivent à peine à se relever, elles ont besoin d'un bâton pour se lever et tout ça, alors que les hommes se sont toujours assis à l'ombre d'un arbre et puis ils ont exigé le thé. Il faut que ça change peut-être.
Donc vous
un
vous élevez contre la société des hommes assis devant les femmes.
Oui, absolument, oui. Oui, oui.
Quel souvenir vous gardez-vous de l'école coranique?
Ah, un très bon souvenir parce que c'était le lieu où on chantonnait comme ça. Et puis, peu à peu, on prend conscience que ce sont des choses qu'on ne comprend pas et ça paraît fatalement absurde.
Et comment ça se fait qu'on ne comprend pas les sourates qu'on apprend?
Mais parce que c'est écrit en arabe et c'est un arabe qui est un peu poétique. C'est mystérieux parce qu'il faut des oulémas pour arriver à expliquer ce que veulent dire les sourates.
Les savants?
Ouais, les savants. Et donc, la porte est fermée, quoi, pour l'accès à ce savoir-là.
Est-ce que les sourates ont du sens alors encore pour vous aujourd'hui ou ça s'est perdu?
Certaines, oui, certaines ont du sens. Il y a un Coran qui dit « Man yu'min billah wa ya'mal salihan yukafir anhu sayyatihi wa yudkhilhu fi jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada » qui veut dire tout simplement « Celui qui croit en Dieu et qui fait le bien, nous lui promettons en fait, le jardin d'Éden pour l'éternité. Et ce verset-là me semble vraiment, pour moi, c'est celui qui est un peu mon horizon, même si je ne suis pas pratiquant et tout. Donc, croire en Dieu et faire le bien qui est le plus important. Or, la question, c'est quoi faire le bien? Est-ce que tuer un autre homme parce qu'il est d'une autre religion, c'est faire le bien? C'est des questions qu'on doit se poser.
Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle dont le noble message vient d'être lu par M. André Malo. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain.
Bécom. Pays d'enfance.
Ta liberté, maître de ton courage. Lève les yeux.
Vous êtes donc né avec l'indépendance du pays. Est-ce que vous avez des souvenirs de la présidence Tombal Bhai?
Oui, j'étais petit et je me souvenais seulement des soirées où il y avait des allocutions du président Tombal Bhai. Et dans la cour, mon père écoutait donc la radio avec des amis à lui et je m'asseyais à côté d'eux. Et de temps en temps, il faisait des petits rires comme ça, comme si, enfin, pour dire des fois qu'ils n'étaient pas d'accord et tout. Et moi, je les imitais parfois pour leur faire croire que je comprenais aussi les choses. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, ouais, les allocutions du président de la République que je suivais sans comprendre. Et je me souviens aussi du coup d'État, parce que j'étais à N'Djamena. Et un beau matin, enfin à l'aube, on a entendu des coups de feu et tout. Et à midi, on a appris que le président Tombal Bhai a été tué. C'était le premier coup d'État.
Est-ce que vous auriez pu devenir, comme le héros de votre roman Djibril, un enfant des rues dans ce Tchad nouvellement indépendant?
Non, je ne pense pas, parce que mon père était en plus dans l'éducation. Je tenais vraiment beaucoup à ce que j'aille le plus loin possible. Donc je ne pense pas que j'aurais fini comme Djibril. Voilà.
Alors le premier choc cinématographique, vous le vivez d'après ce qu'on a compris au début de l'émission en découvrant le cinéma indien et peut-être aussi des westerns. Mais votre décision mûre, la décision adulte de faire un jour du cinéma dans un pays où il n'existe pas d'école de cinéma, elle arrive comment?
Elle arrive le jour où j'ai vu Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Et pour la première fois, là, j'ai pris conscience qu'il y avait un auteur. cette caméra, c'est quelqu'un qui pose sa caméra à tel endroit. J'ai tout compris sur le dispositif. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien filmer les gens de mon quartier parce que j'avais l'impression qu'il me parlait des gens de son quartier, de sa famille. Il y avait une telle authenticité, une telle force que je me disais, c'est ce que Bergson appelle la simplicité, c'est-à-dire vous l'atteignez parce que vous avez un regard intérieur, et j'avais l'impression que c'était un regard intérieur. Et c'est à partir de Rome, ville ouverte, que je me suis décidé à devenir cinéaste, même si Rossellini n'est pas dans la liste des cinéastes, que, mais c'est celui qui m'a ouvert.
Vous êtes plus Robert Bresson.
Voilà, oui, plutôt Bresson, oui.
Des images sépia de vous, Haroun, apprenant la mort de votre mère au pays. Et voilà que vous repartez après 10 ans d'absence au Tchad. Vous le filmez les rues de N'Djamena, caméra à l'épaule. Ce N'Djamena où le cinéma était toute votre vie. Et là, vous filmez des images de bâtiments en ruine, totalement détruits. On est en 1999 avec votre film Bye Bye Africa. Attention, le son n'est pas facile.
Comment croire au cinéma dans un pays où la guerre est devenue une culture ? La guerre a fait tellement de ravages que N'Djamena semble se dérober à toute mémoire. Où sont donc passées les salles de mon enfance ? Le Normandie, bien sûr, mais aussi le Scheherazade, le Rio, le Vogue qui s'est transformé en hôtel et l'Étoile.
Mon père a créé le cinéma Étoile en 1946 et il est dans cet état après les événements de 79-80. Sinon, c'était une salle qui marchait très bien aussi et de temps en temps, il y avait des scènes de théâtre.
Pourquoi vous le conservez dans cet état ? Qu'est-ce que vous comptez en faire ?
Je suis très cinéphile. Je le conserve pour en refaire un cinéma flambant neuf.
Moi, je suis cinéaste. Je fais des films, je suis tchadien. Est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse puisqu'il n'y a pas de salle ? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à me donner ?
Je pense qu'il faut aller au bout de vos rêves. Et si vous êtes cinéaste, et produire, ça ne peut que rehausser le pays. Et si vous faites les films, nous aussi, on pourra essayer de rehausser le cinéma. On pourrait se joindre pour faire quelque chose, apporter un souffle nouveau. Je pense que la jeunesse tchadienne n'attend que ça.
Mahamat Saleh Haroun, est-ce que vous diriez que ce film documentaire est un petit peu comme l'acte fondateur de votre œuvre à venir ?
Oui, sans doute. Enfin, je suis assez ému d'entendre cette femme.
Parce que ?
Et je me dis, en fait, c'est les paroles qu'on n'a pas pu tenir. Il n'y a pas plus violent que ça.
Et combien de salles de cinéma aujourd'hui au Tchad ?
Aujourd'hui, il y a une salle, le Normandie, qui a ouvert donc en 2011 avec Un homme qui crie, après le prix du jury à Cannes. Et cette salle, elle fonctionne toujours. Et on aimerait tellement faire plus et mieux.
Qu'est-ce qui n'a pas été possible ?
Il n'a pas été possible de sauver le cinéma Étoile. On n'a pas pu sauver le Scheherazade. On n'a pas pu sauver le Rio, même s'il existe, en l'état, en ruine. Et par moments, on se dit qu'il y a quelque chose dans cette guerre qu'on mène, parce que crier, c'est vraiment faire la guerre dans des pays comme le Tchad, et que cette guerre, on l'a perdue d'avance. Il n'y a pas plus violent que ça.
Bon, le Tchad n'a toujours pas les infrastructures pour faire, pour créer une école de cinéma, mais elle a un cinéaste qui s'appelle Mahamat Saleh Haroun. Et depuis, presque tous vos films ont pour toile de fond la guerre civile ou les conséquences d'un régime de terreur sur une société qu'on va dire entravée, castrée, frustrée, que ce soit avec Un homme qui crie, Gris-Gris ou Darat. Hein, l'histoire de ce jeune garçon de 16 ans qui se retrouve face à un criminel de guerre qui n'est autre que l'homme qui a tué son père. Mmh. En tant que premier réalisateur tchadien, on y revient à cette image incroyable, oui. Est-ce que vous vous sentez avoir une mission dans la manière de choisir vos thèmes ?
Oui, j'ai une mission parce que je ne peux pas me dérober à certains sujets. C'est comme ça que j'ai dû faire ce documentaire, Hyssen Abré, une tragédie tchadienne.
Ça, c'est le documentaire, mais quand vous êtes dans la fiction...
Oui, mais même dans la fiction, j'essaie de construire ou de reconstruire un peu cette histoire, cette mémoire tchadienne. Et il me semble qu'il faut commencer par le commencement et qu'on a besoin un peu de ça, c'est-à-dire rendre compte de ce qui fait que nous sommes tchadiens, que nous vivons sur ce territoire-là, que nous avons traversé des histoires qui... finiront fatalement par faire nation parce que tout simplement nous avons partagé ces moments-là et que cela finit, cette violence qu'on s'est faite à nous-mêmes finit en fait par nous rapprocher et par nous faire comprendre qu'on appartient en fait au même pays. Et j'essaie de construire cette œuvre-là. Ce n'est pas conscient, je ne m'assois pas en me disant je vais faire ça, mais je me rends compte après coup que c'est ce que je suis en train de faire.
Donc vous contribuez à écrire à travers le cinéma un récit national.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit national? Il est fait de quoi? À part la terreur, il y a des gens que vous aimez, puisque vous disiez que le cinéma, c'est un acte d'amour. Qu'est-ce qu'il faut raconter de ces gens?
Il faut raconter de ces gens leur authenticité, leur rapport au monde, parce que le récit national tel qu'il existe aujourd'hui, comme vous l'avez... fait écouter tout à l'heure, par exemple, ce qui est l'hymne national. C'est une chanson qui a été écrite par un prêtre français. Donc c'est aussi comment déconstruire certaines choses pour raconter l'histoire tchadienne d'un point de vue proprement tchadien. Et c'est rendre compte de cette diversité, de cette gestuelle et de cette dignité de ce peuple qui me touche le plus.
Vos études de cinéma et de journalisme en France, Mohamed Saleh Haroun. Mais qu'est-ce qui vous a fait revenir au Tchad un jour?
Il n'y a pas très longtemps, vous voulez dire. Oui, d'accord. Je suis retourné pour une mission. Là aussi, je l'ai accepté pour le Tchad, pour m'occuper du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Et si je l'ai accepté, c'est parce que je me suis dit que la posture de celui qui est né quelque part, qui trouve son territoire d'épanouissement ailleurs et qui porte en permanence un regard critique en attendant que les choses soient parfaites pour y retourner, ce serait trop simple en fait. Et si moi je peux, à mon petit niveau, apporter quelque chose, une petite lumière, pourquoi pas? Donc j'ai décidé d'y retourner pour essayer de faire bouger les choses autant que faire se peut. Mon premier projet, c'est vraiment d'apporter des livres à cette bibliothèque nationale qui n'en a pas un seul. Voyez-vous, si je pouvais déjà garnir les rayons de la bibliothèque nationale dans un premier temps avec 3000 exemplaires, 3000 ouvrages, ce serait un bon début.
Alors, c'est une fonction, vous le savez, qui interroge vos fans les plus fidèles et les plus convaincus. On se demande comment un artiste, un intellectuel, un homme libre tel que vous peut accepter de travailler avec un gouvernement éloigné des pratiques démocratiques. Vous venez de le dire à l'instant. Je rappelle qu'Idriss Déby est au pouvoir depuis 90 et que les observateurs soulignent la disparition de militaires tchadiens qui ont eu un peu le mauvais goût de ne pas voter pour ce président aux dernières présidentielles. Mais vous êtes en train de dire, Mohamed Saleh Haroun, que vous prenez le risque de vous battre pour que la démocratie fasse un pas dans ce pays.
Non, c'est apporter ma pierre, si vous voulez, à la construction de quelque chose. De toute façon, il me semble que dans l'histoire de l'humanité, tous les pays font mouvement plutôt vers plus de liberté. Et qu'on a besoin peut-être de construire ce pays-là, un État fort. Il y a, je donne l'exemple, même si Idriss Déby n'est pas Atatürk ou Napoléon, rappelez-vous de la Turquie, que Atatürk, en fait, a fondé l'État turc et que il a fallu quelques années. Je pense qu'il faut avoir un État fort pour après peut-être passer à quelque chose, enfin passer la main. Mais ça, j'en suis convaincu. Je pense que voilà. Donc Je pense que la démocratie, c'est une sorte de construction permanente. Et je pense qu'on peut construire petit à petit des choses et on peut avancer.
Est-ce que vous avez cette discussion avec Idriss Déby lui-même ?
Non, je n'ai pas cette discussion avec lui.
C'est une question naïve, hein, mais vous savez.
Oui, oui, tout à fait.
Non, au nom de la naïveté, les idéaux peuvent avancer.
Absolument, hein. Oui. Mm-hmm. Non, non, je n'ai pas discuté de ça.
Est-ce
avec
que vous
le
souhaiteriez ?
Écoutez, oui, je ne suis pas un ami au président de la République. On a un rapport hiérarchique, donc je ne discute pas fatalement de ces choses-là avec lui. Mais avec des amis ministres, oui, on discute. Et vous savez, je pense qu'on ne rêve que d'une chose, de toute façon, tous dans ce gouvernement. Et le président de la République aussi, nous rêvons seulement de lumière pour ce pays.
Bon, cette nomination, on ne peut pas dire qu'elle ait un quelconque lien avec ce documentaire que vous avez signé sur Hyssen Abré ?
Non, pas du tout, parce que...
Non. On peut se poser la question.
Non, pas du tout.
Toujours naïvement. Donc, tout est une histoire de Mektoub. Alors, on a beaucoup évoqué votre film Hyssen Abré, une tragédie tchadienne présentée l'an dernier à Cannes et qui donne la parole donc, aux victimes de ces crimes contre l'humanité commis entre 82 et 90 au Tchad. On voit, je vais donner juste une image, par exemple, sur les murs de l'association des victimes, des banderoles avec des dessins représentant une femme ligotée dont on brûle le sein. Le corps d'un homme traîné par une voiture, le pot d'échappement dans la bouche, des cadavres utilisés comme des oreillers, ou encore cet homme qui raconte cette torture qui consistait à cercler la tête de baguettes. Extrait.
Ils m'ont attaché ces baguettes. Ils ont serré, serré pour les attacher à l'avant. Ils ont tapé sur les baguettes. Ça vibrait dans ma tête. Je suis tombé. Ils m'ont ligoté les mains derrière le dos. Et ils m'ont jeté comme un poulet bridé. Frappé sur les baguettes, tout était flou. Je voyais le monde à l'envers. La tête en bas, les jambes en l'air. Ils me frappaient, en m'accusant d'être libyen. J'ai dit non, tu es libyen. Comment pourrais-je l'être ? Mais il continuait à me frapper. Avec les baguettes, j'étais désorienté. Des gens à l'envers me frappaient. Les maisons étaient à l'envers, le monde entier était à l'envers. Regarde, c'est déformé. Ma mâchoire a été décrochée. C'est un co-détenu qui me l'a remise en place. Quelqu'un l'a remise en place. Dieu seul sait ce que j'ai souffert.
Mahamat Saleh Haroun, vous nous disiez tout à l'heure que la parole n'avait pas été facile à libérer, la parole de ses victimes. Qu'est-ce que vous avez dû faire ? Jusqu'où avez-vous dû aller pour justement qu'elle se libère, cette parole ?
Avec certains comme Hyssen Robert Gambier, à l'inverse d'autres personnes, lui parlait tout le temps et il était devenu un peu la risée. Personne ne croyait même à son histoire, c'est ça que j'ai appris dans les bars, enfin tout ça, les gens se moquaient un peu de lui ou lui demandaient de raconter. Voilà, il était devenu comme le fou du quartier. Et il a raconté vraiment les choses de manière exceptionnelle parce qu'il les mime en fait. Il ne raconte pas, c'est quelqu'un qui revit tout ce qu'il a vécu et ça c'est extraordinaire. C'est un pauvre homme qui a perdu un œil, qui a été impuissant, qui a perdu sa virilité pendant quelques années pour rien parce qu'il était clair de peau et qu'on pensait que c'était un Libyen et qu'à l'époque les Libyens c'était les ennemis. Sauf que c'est un métis de père français, Robert Gambier, son père. Voilà l'absurdité dans laquelle on est arrivé. Au Tchad, à un moment donné, on a arrêté des gens parce qu'ils avaient la peau claire et qu'ils étaient soupçonnés d'être des Libyens.
Est-ce que le ministre de la Culture que vous êtes voudrait inscrire dans les programmes scolaires l'histoire de ces années de terreur ?
Absolument, j'ai même eu cette proposition, vous savez, du président de la République qui m'a dit que ce serait bien que le film soit présenté en fait dans tous les établissements. En tout cas, on ne peut pas le présenter à des enfants d'un certain âge, mais à partir du collège ou du lycée, ce serait bien, je pense, de montrer le film un peu partout, de susciter le débat, de faire venir des victimes, qu'elles en parlent et tout, pour que cela ne se répète pas.
Vous accusez la France, les États-Unis, l'Irak et le Zaïre à l'époque d'avoir soutenu cette police politique, et vous avez fait le choix de ne jamais montrer le visage d'Hissène Habré. Pour quelle raison ?
Pour une raison simple, c'est que, en fait, les images qu'on a d'Hissène Habré sont des images du temps où il était au pouvoir, et donc où il était fort, puissant, beau. Et j'ai toujours été étonné quand je voyais des documentaires, par exemple, sur Hitler. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette espèce de pouvoir diabolique. Donc je voulais pas, je voulais vraiment laisser la parole de ceux qui ont vécu cette chose-là dans leur chair, et je voulais rester dans le point de vue des victimes.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur, Rita Hayworth et Ngarta Tombalbaye, et puis aussi Djibril ou Les ombres portées, un roman paru chez Gallimard dans la collection Continent Noir. En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application RFI Pure Radio, et derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Monsieur Gilles Kepel. À demain.